amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bonjour. C'est toujours pour moi, je me le répète, un grand bonheur de vous retrouver pour notre émission Palabre, une émission Palabre en compagnie de Didier qui m'interroge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons poursuivre un peu les problématiques que nous avions abordées lors de la dernière émission qui portait sur...
L'histoire et
la mémoire.
Oui.
Et aujourd'hui, dans ce fil, dans ce droit fil, nous parlerons du couple identité-altérité, mais particulièrement dans l'œuvre de Franz Fanon, donc nous en parlerons aujourd'hui. En 1952, Franz Fanon publie « Peau noire et masque blanc » et aux éditions du Seuil. L'essai se donne à lire comme un virulent plaidoyer pour une commune humanité sans projection raciale, projection raciale qui, nous le savons, divise les hommes au lieu de les unir. Franz Fanon s'illustre en tant qu'anticolonialiste et en tant que médecin, puisque nous savons qu'il est psychiatre. Il dicte « Les damnés de la terre » dans « L'urgence » en 1961, car il sait très bien qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre puisqu'il est atteint d'une leucémie. Il a reçu un exemplaire de ce livre, « Testament », préfacé par Jean-Paul Sartre, 3 jours avant sa mort. Avant de mourir, il écrit à son ami Roger Taïeb, je le cite, « Nous ne sommes rien sur cette terre si nous ne sommes d'abord les esclaves d'une cause, de la cause des peuples, la cause de la justice et de la liberté. » Fin de citation. Alors, par quoi allons-nous commencer, Didier ?
Alors, justement, comment Fanon articule-t-il dans son œuvre les notions d'identité et d'altérité ?
Eh bien, c'est toute notre problématique. Tout comme Césaire, dont je le rappelle, il a été l'élève, Fanon a condamné le colonialisme et ses effets. Ainsi, il a récusé ce qu'il considérait comme la reproduction des iniquités antérieures, notamment les questions croisant identité et altérité, métissage et mémoire, histoire et mémoire, questions qui sont à l'arrière-plan de toutes les revendications actuelles. C'est dire aujourd'hui l'actualité de Franz Fanon. Sur le plan de la littérature postcoloniale, Patrick Chamoiseau développe dans « Écrire en pays dominé » les contradictions auxquelles sont confrontés les écrivains antillais. Pour eux, c'est la langue française qui s'imposait à ces écrivains, donc, sauf s'il fallait marronner et écrire en créole. Je cite Chamoiseau, « La départementalisation nous stérilisa », fin de citation. Il signifiait par là que le statut postcolonial de département a continué à accélérer l'intégration de la population antillaise dans le cercle de la consommation, sinon de l'aphasie. Se basant sur les écrits de Fanon, Chamoiseau réitère les effets pervers de cette situation. Dépersonnalisation, haine de soi, mimétisme, ce qui est renforcé aujourd'hui par la mondialisation et la globalisation des économies. À la Martinique, l'économie est principalement aux mains des béquets. Le français est leur langue, elle est celle du pouvoir en face et nolens volens, donc par voie de conséquence, celle des habitants. Le créole est plutôt réservé à la sphère domestique et au peuple. Le créole est considéré comme un obstacle à l'ascension sociale plus comme un enrichissement collectif. Et d'ailleurs, dans beaucoup de familles, il était interdit de parler créole à la maison. C'est mon cas. J'ai appris à parler créole très, très, très tard. Ce qui constitue, selon Fanon, je cite, « ce petit hiatus existant entre la bécaille, la mulâtraille et la négraille », fin de citation. Fanon, comme l'écrit le japonais Takeshi Ebisaka, en 1982, je cite, « porteur d'un humanisme de fureur et de révolte ». Fin de citation. Fanon est philosophe en ce sens qu'il s'interroge sans cesse, il s'étonne sans cesse. Il provoque les interrogations et les ruptures. Et c'est vraiment en cela qu'il s'adresse à tous ceux qui réfléchissent au couple identité-altérité. Il tente, dans Peau noire et masque blanc, d'apporter une compréhension du rapport noir versus blanc. Il veut sortir chaque race de sa prison, de l'épidermisation et de l'infériorité du noir. Il estime par ailleurs que plus le noir a été pris en main par la société blanche dans le processus de sa formation, je vais parler de l'école, plus son aliénation sera profonde. Aimé Césaire, lui, attribue une place très large, très importante aux questions d'identité. Je le cite, « Je crois que si je suis devenu poète, c'est parce que très tôt, j'ai eu, et très fort, le sentiment d'une identité martiniquaise, d'une identité antillaise. » Fin de citation. Et que nous dit Fanon? Fanon nous dit, « Vais-je demander à l'homme blanc d'aujourd'hui d'être responsable des négriers du XVIIe siècle ? Vais-je essayer par tous les moyens de faire naître la culpabilité dans les âmes ? La douleur morale devant la densité du passé ? Je suis nègre et des tonnes de chaînes, des orages de coups, des fleuves de crachats ruissellent sur mes épaules. Mais je n'ai pas le droit de me laisser ancrer. Je n'ai pas le droit d'admettre la moindre parcelle d'être dans mon existence. Je n'ai pas le droit de me laisser engluer par les déterminations du passé. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. » Mais retenons cette phrase, « Je ne suis pas esclave de l'esclavage » car effectivement, on parlait la dernière fois des commémorations, mais on peut se demander si ce dolorisme qui consiste à ressasser sans cesse « je suis petit-fils d'esclave, enfant d'esclave », etc., est-ce que ce n'est pas un frein, un rupteur qui nous empêche d'aller en avant ? Et oui, et encore une fois, je l'ai dit la semaine dernière, le père Jean-Michel Moncontour a raison de dire « Il faut arrêter de commémorer l'esclavage. Parlons de liberté. Fêtons la fête de la liberté. » Alors nous poursuivons par quoi ?
Nous savons que les questions linguistiques sont très importantes dans les sociétés postcoloniales. Comment Fanon aborde-t-il ces notions ?
Oui, alors, comme j'ai amorcé, les questions d'identité et d'altérité sont liées à la langue qu'on parle. Hein. On a vu que dans les sociétés insulaires colonisées, les Antilles, un peu moins à La Réunion, mais quand même, hein, il y a eu ce phénomène de diglossie avec une survalorisation de la langue française et une dévalorisation de la langue créole. Pour Fanon, le moyen cardinal pour comprendre, je cite, « la dimension pour autrui de l'homme de couleur », fin de citation, est le langage. Et il ajoute, je cite encore, « parler, c'est exister absolument pour l'autre. Parler, c'est surtout assumer une culture. Supporter le poids d'une civilisation », fin de citation. Pour cela, il analyse le profil linguistique des Antillais dans leur rapport à la langue française. L'Antillais doit penser son environnement et se penser dans cette langue française qui l'infériorise, car les représentations qu'elle offre du noir et de sa compétence linguistique sont méprisantes. L'Antillais veut s'approprier la langue française pour prendre l'ascenseur social. Le noir antillais, mais peut-être aussi le noir réunionnais, sera d'autant plus blanc qu'il aura fait sienne la langue française. Et souvent, on parle de cette espèce d'hypercorrection que les Antillais, mais aussi les Africains, mettent quand ils parlent français avec vraiment le besoin de justifier le fait qu'ils parlent français encore mieux que le français de France. Pour Fanon, c'est justement cette survalorisation du français, c'est surtout le signe d'une aliénation. Il récuse ce que l'universitaire québécoise Lise Gauvin nomme, je cite, « la surconscience linguistique qui fait que le français apparaît comme la marque de la réussite sociale essentiellement, mais aussi de la réussite culturelle hein, qui dote ce français de France d'un surplus de reconnaissance. » Mais, comme j'ai amorcé tout à l'heure, qui dit survalorisation du français dit en retour dévalorisation du créole, ce que Damas, l'écrivain Léon Gontran Damas, dénonçait dans le poème « Au quai » extrait de son recueil « Pigments » publié en 1937. Je cite « Ma mère voulant d'un fils mémorandum, si votre leçon d'histoire n'est pas su, vous n'irez pas à la messe dimanche avec vos effets du dimanche. » Cet enfant sera la honte de notre nom. Cet enfant sera notre nom de Dieu. Taisez-vous. Vous ai-je ou non dit qu'il vous fallait parler français? Le français de France. Le français du français, le français français. Fin de citation. Fanon, à la suite de Damas, relate une anecdote dans Peau noire et masque blanc. Je cite Fanon. Il me revient un fait significatif. En 1945, lors des campagnes électorales, Aimé Césaire, candidat à la députation, parlait à l'école des garçons de Fort-de-France devant un auditoire nombreux. Au milieu de la conférence, une femme s'évanouit. Le lendemain, un camarade, relatant l'affaire, la commentait de la sorte. « Françaisat est tellement chaud !» qui formulant là, tombait mal qu'a dit. L'élégance du français était telle que la femme est tombée en transe. Fin de citation. Aujourd'hui, de nombreuses minorités luttent âprement contre toutes les formes de suggestion qu'elles subissent et la question de la langue prend une place non négligeable dans le processus d'affirmation. La francophonie n'est plus un gadget, n'est plus une alternative à l'anglomanie. C'est un moyen employé par la France pour assurer le maintien de son influence. La défense de la créolité ne porte pas seulement sur le langage. Elle touche à l'ensemble de la personnalité dans sa mémoire, son actualité, ses conditions sociologiques et anthropologiques, ses attentes, en somme. C'est ce que Glissant appelle la diversalité, cette espèce d'affirmation de la pluralité et non d'un universalisme très réducteur. Quant à Éloge de la créolité, coécrit par Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant et Jean Bernabé, c'est un essai qui retient la densité, je cite, « mangrovienne » des textes saint-zériens, mais met aussi en valeur les écrivains qui n'ont pas renié leur ascendance linguistique. Les auteurs de la créolité, les trois auteurs que j'ai cités, mais aussi ici, Axel Gauvin notamment, Monique Séverin, et recréent les capacités de la langue créole. On pense aussi à l'écrivain haïtien Franck Étienne. L'autodénigrement antérieur s'efface devant cette remontée de ce qu'on appelle les subcultures populaires, oubliées ou méconnues, créoles. Les romans de Confiant ou de Chamoiseau s'inscrivent dans une antillaïdité où s'enrichit et se conjugue, se dit aussi la complexité antillaise au carrefour de plusieurs langues. C'est également ce que fait Axel Gauvin, Monique Séverin, Expédite Cernot, en ce qui concerne la réunionnité. La réalité s'attache à saisir le réel présent tel qu'il prévaut dans la Caraïbe ou ici dans la zone lémurienne. Mais paradoxalement, cette démarche devient aporétique en posant le métissage comme subsumant ou opacifiant les fondements socio-économiques. En réalité, ce que les auteurs de la créolité rejettent avec force, c'est l'assimilation linguistique que l'école inculquait à bon droit. C'est en tout cas l'officialité des programmes scolaires. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Qu'on me dise quels sont les textes créoles, les textes de la créolité, qui sont inscrits au programme scolaire, au programme du bac. Nenni. Ainsi, dans « Écrire un pays dominé », Chamoiseau, parlant des maîtres d'école, écrit, je le cite, « Ils rejetaient aux enfers la langue et la culture créole du pays, d'autant plus aisément qu'ils n'y voyaient ni langue ni culture. » Alors, nous poursuivons par quoi ?
Quelle vision de l'homme se dégage des thèses fanoniennes ?
Oui, on ne peut parler effectivement d'identité et d'altérité, c'est poser la question de la vision à la fois ontologique, anthropologique et sociologique de l'homme qui se dégage. Alors, bien sûr que Fanon a lu les livres de Mannoni, notamment cet ouvrage qui s'intitule « Psychologie de la colonisation ». Mais il réfute absolument les thèses de ce dernier qui, selon lui, légitime la colonisation. Ce que Fanon fait dans la suite de Césaire, qui, lui, avait déjà écrit le discours sur le colonialisme, vilipendant, mais vraiment, les thèses d'Ernest Renan, de Jules Romain, du révérend père Temples et, évidemment, de Mannoni. Fanon fait crédit à Sartre et à son étude sur la question juive. Je cite « Le juif est un homme que les autres hommes tiennent pour juif. Voilà la vérité simple, d'où il faut partir. C'est l'antisémitisme qui fait le juif. » Eh bien, il calque cela sur la négraille, comme il dit, c'est le racisme qui fait le nègre. Transposant les thèses de Sartre aux Antilles, Fanon interroge la situation des Martiniquais noirs, également réifiés par les autres et leur idéologie colonialiste. Il faut rappeler encore que dans les années 37-39, le mouvement de la négritude, porté par Damas, Senghor et Césaire, avait tenté de retrouver les valeurs négatives associées à leur couleur noire pour, en l'assumant partiellement, redonner en quelque sorte au sujet une part de sa subjectivité, de sa capacité à devenir ce qu'il est, bref, à s'assumer en tant que noir. Et même, Damas dit, je ne veux pas qu'on m'appelle noir, je revendique l'appellation nègre pour moi. Et si, en revendiquant cela, il demandait aux nègres de ne plus être le jouet des assignations de sens que les autres lui imposaient. C'est ainsi qu'il pourra construire sa propre liberté au-delà des déterminations et de l'objectivation, c'est-à-dire ce qui font de lui un objet d'étude, c'est le faux. Hein? Donc, en dépit et de l'objectivation que le monde extérieur et singulièrement la situation coloniale génère pour les Noirs. Fanon dénonce donc les préjugés européens face à l'autre. Il fustige Mannoni, on a dit, qui pense qu'il y a une disposition intrinsèque à être colonisé, rien que ça. Même si Mannoni reconnaît qu'il y a une forme de racisme du côté du petit blond, pour autant, il n'a pas compris le point de vue du colonisé. En réalité, Mannoni oblitère totalement le bouleversement total induit par la situation coloniale. Et Fanon doit préciser qu'à cause de la domination advient l'altérité à laquelle l'homme de couleur doit se mesurer pour lui le dominer. L'inverse ne se produit pas. Le blanc n'a pas comme altérité, plutôt le blanc n'a comme altérité autre altérité que l'autre blanc, jamais le noir. Le noir n'est pas son vis-à-vis. Il continue donc à être dans la supériorité de sa civilisation. Tant qu'il est aux Antilles, le noir peut conserver un relatif équilibre, mais dès qu'il vient en France, il s'infériorise car on l'infériorise. Avec la négritude, le nègre tente de s'universaliser alors qu'on continue dans le réel quotidien à l'inférioriser. Je cite, « Césaire prend le nègre sur ses épaules et le hisse au nu », nous dit Fanon. Dans l'inconscient collectif antillais, le noir est conditionné à être blanc et négrophobe. Hegel n'est pas loin, qui affirme que l'homme dit son humanité en s'imposant. Mais cette dialectique du maître de l'esclave voulue par Hegel ne peut coller pour le nègre antillais qui a été plongé dans l'esclavage. Il choisit de ne pas se heurter pour être libre finalement.
Qu'en est-il des rapports hommes-femmes, du fameux couple nominé et de leur sexualité?
Eh oui, éternelle question. Oui, des rapports sexuels entre les deux couleurs, Fanon n'envisage que le schéma noir-vert-blanc, situation qu'il connaît lui-même. Je cite, « L'amour authentique demeurera impossible tant que ne sera pas expulsé ce sentiment d'infériorité. » Fin de citation. Il s'appuie pour cela sur les thèses de Sartre, d'Adler, de Gabriel Marcel, de Freud, de Lacan, et analyse en profondeur deux romans qu'il met en perspective. Ces deux romans sont « Je suis martiniquaise » publié en 1948 par Mayotte Capetia et « Un homme pareil aux autres » publié en 1947 par René Maran qui avait, rappelons-le, reçu le premier prix Goncourt en 1921 pour son roman « Batoila ». Il s'agit pour Fanon de montrer que la recherche du corps blanc était devenue un mythe sexuel. Il analyse le comportement phobique du noir ou de la noire face aux représentants du monde blanc, semble-t-il hors de portée, inaccessible. Avoir un conjoint blanc signifie une mutation, une reconnaissance sociale. Pour Mayotte Capetia, je cite, « Elle n'était plus celle qui avait voulu être blanche, elle entrait dans le monde blanc. » Mayotte Capetia le dit de son héroïne qui se met en couple avec un blanc. Ce n'était pas nouveau en littérature. Cette situation entre sexe et racisme, d'autres écrivains l'avaient déjà abordée. On pense à Othello de Shakespeare. Noir, il ne peut croire à l'amour que lui porte la blanche et pure et innocente Desdémone. On peut évoquer aussi Bugjargal de Victor Hugo, ce nègre marron qui connaît lui aussi cette aporie. Il aime Marie, la fille du colon blanc, l'épouse de son ami Léopold. Mais cet amour est sans issue, ce qui le désespère. C'est là une attitude névrotique que l'on retrouve aussi dans Madame Butterfly de Giacomo Puccini. L'héroïne se croit par son union officielle avec l'officier américain blanc Pinkerton, elle se croit donc américaine, elle se croit sauvée. Mais un Américain avec une geisha japonaise, cette union est vécue au Japon, mais elle ne peut plus pas se vivre dans l'Amérique. Il s'en va donc après la guerre en Amérique, dans son pays, et il revient dominateur, qu'il est. Il revient juste pour annoncer à la geisha, pour annoncer son mariage avec une authentique blanche américaine. De surcroît, il enlève le fils qui est né de leur union, donc son union avec la geisha, petit métis, à qui il apprendra à oublier ses origines japonaises. Fanon, on y revient donc, à partir des deux romans mis en regard, recherche le processus d'aliénation dans le rapport amoureux. L'évocation du couple domino, expression de Lambert-Félix Prudent, n'entérine pas pour Fanon l'impossibilité d'une union de ce type, mais l'impossibilité d'une liaison authentique. Je cite, tant que ne sera pas expulsé ce sentiment d'infériorité. Autrement dit, tant que le noir ou la noire se sent inférieur à son conjoint ou à sa conjointe blanc ou blanche, eh bien, le couple ne peut pas être équilibré. De fait, ce que Fanon veut épingler, c'est l'infériorisation d'une infériorisation. D'ailleurs, aux Antilles, on dit des enfants qui ont la peau claire qu'ils ont la peau chapée, c'est-à-dire échappée du noir. Hein? Lilian Thuram, footballeur, le dit dans un de ses livres. Pour en revenir au roman de René Maran, Un homme pareil aux autres, Fanon note que le personnage Jean Veneuse ne s'accepte pas. La jeune fille qu'il aime, Marielle, l'aime aussi. Mais Jean n'arrive pas à lui déclarer son amour, car malgré tous ses efforts pour être semblable au blanc, pour être pareil au blanc, il n'est pas reconnu par celui-ci et reste prisonnier de sa race. Selon Fanon, la clé du malaise de Jean Veneuse, réside dans une sorte de névrose d'abandon, n'oubliant pas que Fanon était psychiatre. De fait, la couleur n'est, dit-il, une tare que pour les consciences aliénées. L'intérêt des analyses fanoniennes tient à sa mise à jour de la psychologie du noir assimilée ou en voie d'assimilation et qui se veut ou qui se fait, nolens volens, l'allié de la puissance coloniale. En conclusion, Fanon est celui qui nous empêche de nous boucher les yeux et de nous endormir au gourou de la bonne conscience. Il a vécu jusqu'au bout son destin de paladin de la liberté. Il est mort en soldat de l'universel. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci encore à toi, mon Didier, pour faire le jeu de l'intervieweur avec tes questions. Merci à vous, chers amis auditeurs, d'avoir fait le choix de Radio Arc-en-Ciel. Et je vous retrouve très bientôt pour une autre émission de Palabre.
Comme l'on batte bonnet bois jean, comme l'on décaba bezou cru, quand femme l'on c'est l'habitation, et puis toutes ces noms goulia, comme l'on batte bonnet bois jean, comme l'on décaba bezou cru.